C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminine.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
Ah bah, j'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Connaissez-vous le mystère du trèfle à quatre feuilles? Il a presque la même envergure que celui de l'œuf ou la poule. Trouver un trèfle à quatre feuilles nous apportera-t-il la chance ou le fait d'en trouver un signifie-t-il qu'on est chanceux? Il y a quelque temps, en rencontrant mon meilleur espoir, j'ai cru trouver la réponse. Ma théorie était que si vous la dénichiez, elle vous apportait inconditionnellement gloire et succès. Pour preuve, c'est elle qui s'est vue confier la responsabilité de sous-titrer les deux derniers films récompensés de la Palme d'Or à Cannes, Triangle of Sadness de Ruben Östlund en 2022 et tout récemment Anatomie d'une chute de Justine Triet. Oui, mon meilleur espoir est sous-titreuse et traductrice-interprète. C'est elle qui a rendu accessible au plus grand nombre, les non-bilingues comme moi, plus d'une cinquantaine de films de langue anglaise ou italienne. Et elle est aussi celle qui rend audible et compréhensible la parole de David Fincher, Ken Loach, Julianne Moore, Suzanne Sarandon, Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Tilda Swinton, liste non exhaustive, lorsqu'il et elle s'adressent directement au public français lors de masterclass, de rencontres ou d'interviews. Elle s'est invitée sur vos écrans, au cinéma ou dans votre salon, aussi légère et discrète qu'elle l'est dans la vie. Sa fonction est capitale, mais peu de gens s'en rendent compte. Elle ne se fera probablement jamais arrêter dans la rue pour un autographe, et pourtant, pour le spectateur qui attend religieusement la fin du générique, c'est son nom à elle qui vient achever la messe. Son nom, que ce spectateur aura vu au moins aussi souvent que le patronyme de la star hollywoodienne qui ouvre le film. Lorsque j'ai rencontré mon meilleur espoir, je ne suis pas devenue riche et célèbre, mais j'ai découvert une personne qui fait son métier avec tellement de cœur et de sagacité, une personne si sensible et humble que je me suis sentie très en veine. Car ce n'est pas rien, tout de même, d'abolir ainsi les frontières, de devenir le relais de la voix d'un artiste dont la portée est mondiale. Ce n'est pas rien de porter ainsi atteinte au mythe de Babel dans l'intérêt général. Lucky us, mon meilleur espoir est Anaïs Duché. Salut Anaïs.
Salut, bah écoute, waouh. C'est très, très beau. Très beau et... En Irlande, c'est pas des trèfles à quatre feuilles, c'est des trèfles à trois feuilles en général. Mais comme j'ai en plus une relation particulière avec l'Irlande, ce que tu ne savais peut-être pas.
Non, pas du tout.
Eh bien, voilà, c'est la boucle est bouclée.
Super. On va parler de l'Irlande. Anaïs, toi, est-ce que tu te trouves chanceuse?
Alors, j'ai tendance à faire partie de ces gens qui veulent pas vraiment croire à la chance dans la vie, et qui pensent que sa chance, on se la crée. Mais si je regarde certains morceaux de mon parcours, disons que j'ai eu des chances, que je les ai saisies. Mais que oui, rétrospectivement, je me sens ultra chanceuse de la vie que je mène, de la vie que j'ai déjà menée. Et ça me donne envie de continuer encore plus parce que je me dis qu'il peut toujours y avoir des choses... Chance dans le sens aussi de surprise, quoi. Et j'adore quand la vie a plus d'imagination que nous. Et c'est vraiment ça que je ressens dans ma vie à moi.
Si on veut faire les choses un peu dans l'ordre, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer, vraiment nous retracer ton parcours et nous expliquer vraiment, très concrètement, quel est ton métier ou tes métiers? Parce que j'ai dit sous-titreuse, mais tu es aussi interprète, enfin traductrice, interprète de personnes qui ne parlent pas le français. Alors vraiment, là, je te laisse tout nous dire. Comment tu en es arrivée là? Depuis combien de temps tu fais ça? Et qu'est-ce que tu fais exactement?
Ouais, t'as 5 heures devant toi. Alors, effectivement, le métier que je fais aujourd'hui, les métiers que je fais aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un ni de nostalgique, ni de très à regarder dans le passé, etc. Mais il faut bien reconnaître que je viens d'une famille déjà d'anglicistes, mes deux parents. Une mère traductrice, un père prof d'anglais. Et en bonne fille modèle, j'ai voulu faire un métier qui est pile entre le métier de mes parents, de mon père et de celui de ma mère. C'est-à-dire que je traduis, mais je traduis de l'oral. Donc ça veut dire que j'ai baigné dans un bain linguistique. On avait souvent à la maison des amis anglophones. Donc je pense que très tôt, j'ai été assez fascinée par ça. Autre aspect de ma vie d'enfant qui m'a aussi beaucoup influencée, je pense que c'est que j'ai grandi en regardant la télé. Vraiment, années 80, beaucoup d'enfants de notre génération.
Ah, complètement, vraiment, on est des enfants de la télé, oui.
Total.
Oui, oui.
Et mes parents étaient assez cool avec ça.
Rester des heures devant le Club Dorothée.
Et vraiment, mais tout ce qu'on dirait qu'il ne faut pas faire dans les manuels aujourd'hui, c'est-à-dire que je faisais mes devoirs devant la télé, enfin bon, catastrophique quoi. Bon, bon. Il se trouve que bon, ça ne m'a pas porté préjudice, il faut croire. Ça m'a donné un amour de la fiction, alors, qui m'a aussi été transmis par ma mère, qui était une grande cinéphile. Elle enregistrait dès qu'il y avait un ciné-club. Évidemment, la VO, c'était le Graal. À l'époque, c'était hyper dur de trouver à la télé de la VO. Donc, dès qu'il y en avait, on l'enregistrait, on l'immortalisait. C'était précieux, c'était rare et précieux, la VO. Et dans nos placards, on avait 300 VHS. Il y avait deux films par VHS. Et après, ça nous permettait donc de les revoir, ces films. Et j'ai fait un bout de ma culture cinématographique avec ma mère, qui m'a montré plein de films, notamment ce qu'elle aimait, elle, c'est-à-dire des comédies musicales. Et des films surtout américains, de la grande période, de l'âge d'or de la comédie, années 40-50. Donc moi, j'ai été vraiment biberonnée à ça. Donc fascination pour le cinéma. J'ai même voulu être actrice à un moment quand j'étais gamine. Bon. Après, j'ai voulu être chauffeur de taxi. C'était un autre délire.
Pourquoi chauffeur de taxi? C'est quoi? Écoute, qui t'a tiré là-dedans?
Je ne sais pas du tout. C'était peut-être ma phase, je sais pas, ma phase papa, et j'ai voulu faire comme papa et conduire une voiture. Mais mon père, gentiment, s'est prêté au jeu, et donc il me disait, j'ai grandi à Poitiers, et il me disait, donc il me faisait des simulations, il me disait, alors toi, il me faisait faire des trajets. Alors, t'es à la gare et tu dois emmener un client à l'hôpital, à la milleterie. Tu passes par où? Et donc il me faisait comme ça, donc vraiment sympa, tu vois.
Trop cute.
Le papa sympa. Bon, ça m'a passé. Assez rapidement, je me suis dirigée vers l'anglais, même si c'était le truc trop évident et que c'était un peu vexant dans ma construction personnelle de me dire bon, je vais faire exactement pareil. Donc c'était parti.
Mais ta mère qui était traductrice, elle traduisait des livres?
Elle traduisait des
oui,
livres,
d'accord.
Donc elle était traductrice littéraire, ouais. Ce qui est assez différent en fait. Évidemment, à l'échelle des métiers, c'est pas très différent. Mais quand même, moi par exemple, je n'aurais jamais pu traduire des livres. Je me sens pas du tout la fibre pour ça. C'est complètement autre chose. Moi ce que j'aime, c'est traduire des dialogues. Donc c'est des dialogues dans un film ou du dialogue quand je suis interprète. Et donc, en gros, pour accélérer un peu, j'ai fait des études d'anglais, assez classiques à la fac, et j'ai vu qu'on pouvait, ayant grandi avec la télé, et moi, j'étais fascinée par le cinéma. Bon, je pense que j'ai assez vite vu que j'avais aucun talent d'actrice et que j'allais pas poursuivre dans cette direction-là. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire des langues et un peu travailler dans ce domaine-là, dans l'audiovisuel. Et j'ai vu qu'il existait des formations pour être traducteur de l'audiovisuel, donc auteur de doublage ou de sous-titrage. On est formé aux deux, hein. Donc je suis entrée dans une formation à Bac+4 et je suis sortie de là avec un diplôme qui vaut ce qui vaut parce que dans le métier, on apprenait encore beaucoup sur le tas. Donc ça, je te parle d'il y a 20 ans. Donc voilà, moi, je sors de là en 2002 et je me lance sur le marché. C'est un marché dur, c'est un marché un peu cassé à l'époque par le DVD qui a fait chuter les tarifs. On est tous freelance. La concurrence est sauvage et libre et elle n'a pas le droit d'être faussée. Donc, on a des tarifs qui tendent vers zéro. C'était très compliqué de me lancer. Voilà, je me suis lancée. Et puis, tu commences par des petits contrats, des petites choses. Tu prends tout ce qui vient, tu fais tes classes.
Comme par exemple, les sous-titres de films érotiques, Anaïs. Oh, j'attendais pour la placer.
Écoute, au début, voilà, et tout matériau est indépendamment du fond.
Mais quand on y pense, c'est fou le chemin parcouru, quand même.
Et c'est vrai.
Érotique. Aux Palmes d'Or de Cannes, on peut dire que tu as bien tracé ta route, quand même. Enfin, vraiment,
Les émissions de télé-réalité, de dating aussi, dans un bus. Ça, c'était sympa aussi. avec des jeux de mots méga foireux. Mais voilà, quand tu es traducteur, c'est ça qui est à la fois chouette et bizarre. C'est que potentiellement, tu peux traduire n'importe quoi. Et même quand tu es dans un domaine comme l'audiovisuel, bah, tu n'es pas spécialisé. Alors moi, je suis en train un petit peu de me spécialiser parce que c'est mon goût. La comédie musicale, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'essaye moi-même de me faire bifurquer ou de faire bifurquer mes projets vers ça. Mais au départ, voilà, un documentaire sur les baleines. Après, le lendemain, c'est un truc de télé-réalité dans un casino où tu suis le quotidien d'un casino. Donc tu apprends à jouer au craps parce que pour savoir de quoi il est question, les gens, ils balance des annonces, des trucs, un vocabulaire, un champ lexical, des références, des trucs. Voilà. Donc la traduction, c'est contexte, contexte, contexte. Et en interprétation, c'est pareil. Si je n'ai pas vu le film dont il est question, si je n'ai pas vu un peu la filmo du réalisateur, de l'acteur-actrice, eh bien, je vais passer à côté de choses, forcément. Donc il faut contextualiser, et c'est pour ça que quand je traduis, il y a tout un travail en amont de préparation. C'est comme un prof, il n'arrive pas sans avoir les mains dans les poches. Et donc c'est tout ça qui y a avant, c'est la recherche de mots. Moi j'utilise beaucoup les dictionnaires. C'est pas parce qu'on parle bien une langue qu'on n'utilise pas le dictionnaire et d'anglais et surtout de français, le Robert mon meilleur ami, tous les jours et toute la journée. On apprend des nouveaux mots tous les jours. Mmh. Et c'est ça qui est fou dans mon métier. C'est ça que j'adore. C'est qu'il n'y a pas un jour, je crois, où je n'apprends pas un mot, une expression, une tournure ou un terme technique ou quelque chose comme ça.
Là, l'essentiel de ton activité maintenant, c'est le cinéma. Enfin, la fiction audiovisuelle et le cinéma.
Alors, au bout de 10 ans à peu près, de 9 ans où je faisais ce métier, je me suis dit, écoute ma grande, maintenant, t'as commencé à tisser ta toile, t'as des clients réguliers, c'est bien, tu fais du documentaire, tu fais un petit peu de série télé, j'avais commencé un peu de série télé, mais t'as fait ce métier au départ, ce qui t'a fait rêver, c'est bon, déjà la fiction, plus que le documentaire, moi c'était vraiment ça mon intérêt, c'est parce que je veux traduire des dialogues parlés, de préférence des dialogues même vulgaires, j'adore traduire des gros mots, c'est un énorme kiff, et donc la fiction. Et évidemment, si je peux, le cinéma. Mais c'est encore plus difficile d'y accéder parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un truc de happy few. Alors, ça commence à s'ouvrir un peu maintenant, mais ça reste parce que l'offre et la demande sont tellement déséquilibrées. Et puis, les clients, il y a assez peu de clients. Ça concerne vraiment un truc de niche. Et ils connaissent un certain nombre de traducteurs, mais pas tous. Ils font travailler certaines personnes, mais pas toutes. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de mettre le pied dans la porte. Et c'est là que j'ai commencé à démarcher et à avoir des refus, des non-réponses, beaucoup. Parce que les gens ne te connaissent pas, ils n'ont pas besoin de toi, et ils ne voient pas pourquoi ils te feraient confiance alors que tu n'en as jamais fait. Les enjeux sont peut-être un peu aussi plus grands. Pour un film qui sort en salle, etc. Et puis, jusqu'à ce qu'une cliente que j'ai un petit peu harcelée sur un film irlandais, parce que je me suis dit, là, t'as un angle, ma cocotte. Sur ce film-là, j'avais repéré le film, je fais beaucoup de veille sur ce qui va sortir, etc. Je regarde un peu, j'ai mes petits moyens que j'ai mis au point toute seule. Hein. Et donc, là, j'ai dit, il y a un film irlandais. Donc là, vas-y, joue ta carte à fond. Et donc, j'ai appelé la cliente plusieurs fois, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé mon CV. Elle me disait, mais oui, mais vous comprenez, moi, je fais travailler que des gens que je connais. Mmh. Je prends un risque avec vous, blablabla. Et puis, je crois qu'à un moment, je l'ai eu à l'usure. Et si je l'ai convaincue sur le titre, rien que j'avais pas beaucoup d'infos, j'avais pas vu le film. J'avais rien, il n'y avait rien sur Internet. Le film, il avait été à Sundance, donc j'avais vu vaguement une petite bande-annonce. J'avais le titre anglais du film, qui est The Guard. Et The Guard, ça veut dire un garde en anglais traditionnel, mais c'est un mot qui est assez peu employé, sauf en Irlande, où ça veut dire, en fait, un policier. Parce que ça vient du gaélique, garda, qui est la racine, en fait, latine de garde. Et eux, c'est le mot qu'ils utilisent pour la police. Et donc, quand je lui ai expliqué ça, peut-être, je sais pas, hein, que ça a fait un peu tilt, elle s'est dit, ah, bon, la nana... Elle est un peu verte, mais elle sait quand même, là, sur ce sujet-là, peut-être que j'ai essayé de dire que j'allais être un atout pour le film, parce que je savais de quoi ça allait parler, j'avais les références. Et elle
parce que tu as vécu en Irlande, en fait.
J'ai vécu un an à Dublin. Mmh. C'était mon année, quand on est étudiant en langue, on part un an à l'étranger souvent, et moi, j'ai été assistante de français à Dublin.
D'accord.
Et donc, amour pour le pays total. Et j'en ai gardé, ouais, un truc très particulier, un lien assez fort. Mon premier grand amour, voilà. Et puis un truc très inconditionnel, quoi, vraiment.
Of the plains of Omaha, I think of all the suffering I saw. The soaking of the pavement, sprawled upon a land without a law. Everything I loved, everything I found or I hoped for. Frightened, I'm surrounded. Who else is there to turn to anymore? Oh, I held out my arms. There was a time I spoke the truth, but my younger years were wasted on my youth. A crack to a pounding on the roof. Sure, I heard the sound as evidence, or better yet, as proof. I was naked as the day I was born, neath the fullness of the moon. Oh, I held out my arms. Oh, I held out. Far away, I hear singing. Far away, a
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
À quel moment dans ton parcours, dans ta carrière, quand vraiment tu as commencé à travailler, tu t'es dit « Oui, ça y est, là, je suis arrivée à ce que je voulais vraiment faire. » Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu es toujours en quête de cette plénitude-là? Où est-ce que tu l'as atteinte et quand est-ce que tu en as eu vraiment le sentiment?
Bah, honnêtement, ce moment-là, il est très, très, très clé pour moi. Le jour où je me souviendrai toujours à quel endroit j'étais quand cette cliente m'a rappelé pour me dire... elle a beaucoup tourné autour du pot et à la fin, elle m'a dit bah, « Écoutez, oui, je vais vous confier le film. » voilà. Et là, voilà, j'étais dans ma chambre, je faisais les 100 pas au téléphone comme ça et là, je dis « Ah, bah, ça y est, même si t'en fais que un, bah, voilà, tu l'auras fait. Tu connaissais personne, t'avais aucun lien dans le milieu, aucun contact. » Moi, j'ai appelé le standard de chez le distributeur. Hein. Donc, comme quoi, c'est possible. Moi, après, quand je vais parler à des étudiants maintenant de mon métier, je leur dis, voilà, si moi, j'ai réussi, il n'y a aucune raison que... Oui, c'est très concurrentiel. Oui, c'est dur. Ou non, tout le monde n'en vit pas. Ou pas bien. Mais c'est possible. Alors, moi, j'en suis vraiment la preuve vivante. Donc, et ce jour-là, je me suis dit, même si tu ne fais qu'un seul film, voilà, c'est un accomplissement. Tu es parti de nulle part et tu l'as fait, quoi.
Pourquoi? Je trouve ça très émouvant.
C'est vrai.
Ouais, je trouve ça très émouvant. Bah, écoute, parce que vraiment, tu as fait vraiment preuve d'énormément de ténacité.
Oui.
Pour vivre de ta passion.
Oui, je crois que j'ai un peu souffert du fait que ma mère, justement, avait souffert elle-même de ne pas s'être assez mise en avant dans sa carrière. Elle manquait de confiance en elle. Et même si elle a aimé ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière, et déjà pour elle, rompre avec une tradition familiale et se lancer toute seule indépendante alors que personne n'avait jamais fait ça autour d'elle, c'était déjà, moi je trouve, moi j'étais admirative de ça, mais elle aurait rêvé de traduire les grands polars de chez Rivage par exemple, et elle n'a jamais osé, Elle avait un contact chez Rivage, elle n'a jamais osé vraiment l'activer. Je crois qu'elle était restée un petit peu, pas amère, mais triste de ça. Là, pour le coup, vraiment consciemment, je m'étais toujours dit, moi, je vais y aller. Je vais y aller à fond parce que je vois que ma mère a des regrets. Moi, je ne veux pas en avoir. Et donc, alors, ça a été tout un processus, hein, parce que moi, je n'avais pas plus confiance en moi au départ que ma mère. Et surtout, quand on fait des études littéraires, on n'est pas du tout préparé à se vendre, qui est vraiment le truc horrible. Voilà. C'est l'impression de vendre son âme au diable, de se prostituer quand on décroche son téléphone pour démarcher, quoi. On a l'impression de quémander.
Oui, voilà, il y a ce truc de que c'est pas élégant parce que nous, les littéraires, on doit être plus délicats que les autres.
Oui, voilà, au-dessus de ça, vivre d'amour et d'eau fraîche et surtout ne pas avoir l'air de réclamer, etc. Donc, ça, voilà, j'ai appris avec tous les refus. J'ai appris, voilà, la première fois que j'ai décroché mon téléphone. Ça se passait moins par mail à l'époque, c'était plus par téléphone. Donc, en plus, c'est vraiment le truc de décrocher son téléphone qui est quand même hyper violent. Tu te mouilles énormément, tu donnes beaucoup de toi par rapport à un mail. Ça m'a... Donc, je suis devenue mon propre commercial. Bah, petit à petit, voilà, tu t'as guéri et tu apprends à pas avoir mauvaise conscience de le faire, quoi. Et de pas t'en excuser, surtout parce que si tu t'en excuses, c'est, je pense, moins efficace vis-à-vis de la personne que tu appelles.
Je rebondis du coup, puisque tu parles de ta maman, sur le fait qu'elle t'ait transmis l'amour des comédies musicales. Est-ce que ça fait partie de ta playlist ?
Oui !
Allez !
Oui, alors dès qu'on parle de comédie musicale, je pense que je prends une voix débile. je pense que c'est inévitable. Donc là, ouais, la chanson que j'ai choisie, il fallait en choisir qu'une seule dans des comédies musicales, et il y en a tellement que j'aime. Mais j'ai choisi un auteur que j'adore, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, qui n'est pas ultra connu en France, mais qui est pour moi un génie d'écriture, de jeu d'acteur, peut-être un peu moins, mais c'est vraiment un génie de composition et d'écriture de comédie musicale. Et l'œuvre la plus connue qu'il ait écrite, ça s'appelle Hamilton, an American Musical, en anglais. Et le mec, quand même, il a du cran, parce que le mec... Il se présente en 2009 chez Barack Obama et Michelle Obama à une soirée qui est la soirée de la Société des poètes et des écrivains, je crois. Une soirée organisée par la Maison Blanche tous les ans. Et il devait au départ faire un extrait de sa comédie musicale de 2008 qui avait eu un petit succès. Et d'un seul coup, au dernier moment, il dit « Non, écoutez, vous savez quoi ? Là, je bosse sur un projet. » Il se présente vraiment tout gringalet et tout. Il était encore jeune. Hein. « Je suis en train d'écrire une comédie musicale sur Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs, à peu près le père fondateur le moins connu, le moins sexy. Mais moi, je trouve que ce mec, en fait... Et je vais faire une comédie musicale hip-hop, sachant qu'on est au 19e, 18e siècle. Et pour moi, ce mec, il est hyper hip-hop. Parce qu'il a débarqué nulle part, d'un milieu hyper modeste, d'une île, il était des îles. Il a débarqué là, il avait beaucoup d'ambition. Il s'est petit à petit... Bon, il a fait son trou, mais il s'est en même temps fighté avec tout le monde et il est mort comme un gangster dans un duel avec un mec qui l'avait énervé, quoi. Et donc, tout le monde rigole et tout. Et là, il commence à rapper son truc, le morceau introductif Alexander Hamilton. Et tout le monde est totalement scotché. Donc ça, c'était 2009 et le spectacle a mis après 6 ans à s'écrire et à se faire. Et après, il ouvre à Broadway et il remporte tous les Tony Awards, donc l'équivalent qui est un peu un mix entre les Molières et les trophées de la comédie musicale aux États-Unis, qui est un truc énorme. Et là, il rafle tout. Et son truc devient un phénomène mondial. Et donc, il a vraiment réussi son pari, quoi. C'est un truc incroyable. Et ce mec est un génie dans la façon de triturer les mots qu'il a. Il a un flow incroyable dans l'écriture. Pour moi, il est vraiment... Alors, je pèse mes mots. Il est du niveau de Shakespeare. C'est le Shakespeare du 21e siècle. Vraiment, il faut l'écouter, la façon dont les allitérations qu'il fait, les rimes intérieures, il a un côté hyper ludique avec les mots, il s'affranchit de plein de règles, il s'en fout, et il est hyper effronté, mais en même temps, il a une rigueur qui lui permet de faire des... Voilà, Hamilton, ça dure 2h45, il y a 44 raps dedans, c'est une œuvre monumentale, et chaque vers est brillant. Donc j'invite tous les gens, et il y a eu une captation qui a été faite, et c'est disponible sur Disney+. Mais voyez-le, c'est extraordinaire. La chanson que j'ai choisie, c'est pas la première, C'est la troisième du spectacle qui s'appelle My Shot, qui veut dire ma chance. Donc on retombe encore là-dessus. Pour moi, j'aime bien cette chanson parce que déjà c'est lui qui la chante. Quand la captation a eu lieu et l'enregistrement de l'album du spectacle a eu lieu, c'était encore lui qui tenait le rôle principal. Et c'est ce qu'on appelle dans une comédie musicale la I Want Song. C'est la chanson dans laquelle le héros ou l'héroïne expose son ambition, sa volonté, le but qui va être sa quête pendant le spectacle. Évidemment, la personne va rencontrer des obstacles, etc. Mais c'est vraiment voilà, la I Want Song. Alors, deuxième morceau. C'est un morceau qui a été influencé par l'actualité. J'ai choisi la chanson du générique de Friends, des Rembrandts, I'll Be There For You. Parce que Matthew Perry, qui jouait Chandler Bing, est mort brutalement il y a 3 semaines de ça. Bah, ça fait un petit choc pour les gens qui aimaient la série. Moi, dire que j'aimais la série, c'est l'euphémisme du siècle.
Ouais, on m'a dit que tu étais une énorme fan de cette série.
T'as des très bonnes sources. C'est une série qui m'a... Je vais aller assez loin, qui m'a pas mal façonnée. C'est avec cette série que j'ai appris l'anglais, qui se parlait. L'anglais des jeunes, l'anglais actuel, pas scolaire. C'est tombé vraiment à la période où j'étais à la fac, au début de la fac, je crois. C'était vraiment une révélation. Les expressions courantes, en fait, je les notais. C'était au tout début d'Internet. Alors, généralement, c'est un gros coup de vieux. Il y avait des mecs qui retranscrivaient et qui faisaient des transcriptions, des dialogues, des épisodes. Et qui les mettait en ligne. Et donc moi, en fait, je téléchargeais les scripts, je les imprimais et je surlignais les mots et j'ai appris un nombre d'expressions, mais incalculable, grâce à ça. Et je suis devenue donc une fan inconditionnelle de la série, à tel point que quand j'ai fait mon mémoire de Master 1, j'ai fait mon mémoire sur le doublage de Friends, parce qu'à l'époque, on avait accès surtout au doublage. Et donc, j'ai fait un comparatif entre la version originale et la version doublée sur ce qu'on appelle des marqueurs discursifs. Bon, ça, c'est pas le truc le plus intéressant, mais « well, you know, I mean », les trucs sur que tu utilises pour rebondir.
Oui, la fonction fatigue du langage.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas que fatigue, il y avait plein de fonctions. Et donc, après, j'étais pas une chercheuse dans l'âme, donc mon mémoire j'ai eu un jury extrêmement magnanime parce que c'était un petit travail. Donc ça m'a quand même suivi à peu près, à partir de 17-18 ans, quand j'étais à Poitiers, il y avait des échanges de DVD, on avait vraiment une passion commune, parce que c'était pas aussi accessible que ça l'est, maintenant que c'est sur Netflix, ou que ça, c'est pas pareil, mais encore une fois, c'était un peu plus rare et précieux, quoi. Alors, troisième morceau, c'est un duo de chanteurs guitaristes qui s'appelle The Milk Carton Kids. Littéralement, ça veut dire les ils sont cons. C'est les photos d'enfants disparus et aux États-Unis, c'est sur les briques de lait. Donc voilà, les mecs sont un peu clairement décalés. La chanson s'appelle Younger Years. Alors ça a été très dur de m'arrêter sur une chanson parce que j'aime énormément tout ce qu'ils font. C'est un duo de garçons un peu sages, mais faussement sages. Ils plaisantent eux-mêmes sur le fait que leur public, c'est à 75% des étudiants en lettres, parce qu'ils aiment bien jouer avec les mots, et ils ont un petit côté folk, Simon & Garfunkel, donc ils mêlent leur voix d'une manière que je trouve sublime. Moi, j'adore les harmonies vocales, et ça, on vraiment touche au sublime. Ils ont un côté aussi, donc très folk, qui tire légèrement sur blues, country, ils utilisent parfois du banjo, de l'orgue, comme dans les musiques américaines, un peu americana, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc je crois qu'avec eux, il y a eu une sorte d'agrégat de tout ce que j'aime. Et en plus, quand ils sont sur scène, j'ai eu la chance de les découvrir par hasard sur scène un jour, quand j'étais aux États-Unis. Et en fait, ils sont un duo comique exceptionnel, en plus du reste, c'est-à-dire qu'ils font vraiment, entre les morceaux, du stand-up. Et ils sont méga drôles. Vraiment, pareil, je recommande à tout le monde de les écouter. Ils donnent la pêche, ils ont des chansons très douces, presque vraiment berceuses, très lentes. Après, il y en a qui sont hyper rythmées, et vraiment avec le petit banjo, le petit truc qui va bien. Ils sont pas très, enfin, ils sont pas connus du tout en France. Donc, je me dis que si ça peut les faire connaître un tout petit peu, tant mieux. Et quatrième morceau, j'avais envie quand même même si je suis une amoureuse de la langue anglaise, je voulais quand même aussi du français, du plus féminin, donc la femme, parce que j'adore l'album Paradigme. J'aime bien le petit côté décalé du morceau qui s'appelle Le sang de mon prochain. voilà, ça me fait plutôt rire, ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, pareil, musicalement, je trouve que c'est hyper complet, c'est moderne. À la fois, les textes ont vachement travaillé et je trouve ça courageux de chanter en français. Parce que à l'époque où c'est quand même, ça te fait toujours plus cool de chanter en anglais. Je ne jette pas la pierre aux Français qui chantent en anglais, pas du tout. Mais je trouve que c'est un pas supplémentaire, c'est quand même oser de chanter en français, d'avoir des textes, l'équivalent de textes qu'on a en anglais et qu'on ne questionne pas, et d'oser la poésie en français dans la chanson populaire actuelle, quoi.
Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors écoute. Je suis. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes plans. Je t'entends dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie.
Anaïs, je te propose de commencer à piocher des cartes de couleurs, si tu veux.
Ouh.
Est-ce que tu veux voir les couleurs ou est-ce que tu veux piocher au hasard ?
Ah, j'aime bien les couleurs.
Bon. Alors, attention.
Mais du coup, je vais me limiter parce que je vais piocher les couleurs que j'aime bien.
Eh ben, c'est
bon,
bien.
Je vais essayer d'être ouverte d'esprit.
Ouh. Il y en a plein qui n'ont encore jamais été piochés.
Bah, mais parce qu'il y en a un nombre énorme. Oh là là, trop de choix, tue le choix. Alors. Moi, j'ai l'habitude de travailler sous contrainte, donc cette liberté que tu m'offres est totalement déstabilisante et paralysante.
C'est très drôle.
Ah, il y en a une avec un point d'interrogation. C'est encore plus intriguant.
Oh !
Oh my god. Bon, pour démarrer en me sentant à l'aise, je vais prendre ma couleur chérie, le rose poudré.
N'importe qui aurait dit rose pastel ou rose clair. Hein. Voilà, Anaïs a dit rose poudré. Rose et c'est pour ça que je l'aime autant.
École.
Alors sache qu'en vrai, cette carte a déjà été tirée deux fois avant toi. Et que les deux fois, elles ont été la carte a été remisée. Vraiment, ça a fait effet de genre crucifix sur un vampire, quoi. Donc, est-ce que toi, tu veux te lancer sur l'école ? Quel souvenir tu en gardes ?
Je ne sais pas si ce sera très intéressant.
Est-ce que tu as aimé l'école ?
Alors oui, voilà, par rapport à peut-être d'autres personnes. Moi, j'ai adoré l'école. J'ai kiffé l'école. Déjà parce que j'étais bonne élève. Donc, ça aide, sans doute. Après, l'expérience de l'école, c'est très multiple. Et le côté social de l'école a été très compliqué au collège, notamment.
Ah, voilà, oui.
Horrible. Mmh. Non, mais horrible, vraiment. Sentiment assez mêlé, parce que, en plus, quand t'as tendance à être pas super populaire, le fait d'être bon élève, c'est vraiment un facteur aggravant, clairement. Une circonstance aggravante. Oui. D'avoir un an d'avance aussi.
T'avais un an d'avance.
Ouais.
Est-ce que tu t'es retrouvée dans cette configuration où tu as eu ton père en prof ?
Oui.
Oh super, parle-nous.
Ah, ça y est, elle a déterré un truc là. Alors bon, c'était à un niveau. Donc mon père était en prof de fac. Ça s'est fait à un âge où c'est moins stigmatisant et c'est moins encore circonstance aggravante. C'était à la fac. C'était soit en première année, c'était en amphi. Et après, comme je me suis spécialisée en linguistique, donc en gros, t'as civilisation, littérature ou linguistique, et dans les modules, quand tu arrives à un certain niveau de spécialisation, il n'y a qu'un prof. Et donc le cours de phonétique, c'était le cours qui était fait par mon père. Et à ce stade-là, on n'était plus que une quinzaine dans le TD. Bon, tout le monde le savait depuis longtemps. Les petites malveillances étaient passées depuis la première année de gens un peu bête, mais... Et c'était, en fait, pas du tout bizarre.
Ok.
Ouais.
Ouais.
J'ai eu la chance aussi que c'était plutôt quelqu'un d'apprécié. C'était un prof très apprécié. Donc forcément, ça aide. C'est-à-dire que ça rend le truc plus fluide. Et je savais... D'ailleurs, il était aussi... Il avait des petites manies. Il est arrivé avec son chausson aux pommes et sa tasse de thé dans la salle de classe, de cours. Et donc après, on avait monté un club d'anglais et on a monté un bal de promo à l'américaine avec le club d'anglais. Et pendant le bal de promo, on avait fait des sketchs et on avait imité nos profs, mais de façon vraiment fun et très sympa, et sur leurs petits tics et tout ça. Et mon père, il avait tout le temps son Mac, parce qu'il était un fanat des Macs, donc il se baladait tout le temps avec sa petite mallette avec l'énorme pomme d'Apple et son chausson aux pommes et sa tasse de thé et ses chapeaux, parce qu'il a souvent plein de chapeaux. Donc coucou papa. Il était apprécié et ça rendait le truc assez normal et assez facile.
Donc la fac, plutôt bon souvenir. Le lycée,
Le lycée, la transition, ça a été mieux que le collège.
Ouais, c'est le collège la période la plus difficile, en fait.
Ah, vraiment, ouais. Terrible.
Nos pères sont...
Ouais, vraiment, mais les enfants sont horribles entre eux. C'est une catastrophe. Ils sont d'une cruauté sans borne. Hein. Et puis, il suffit que t'aies pas les bonnes fringues.
Tu te sentais différente ?
Ouais, je l'étais parce que un an d'avance, j'étais très grande. J'ai grandi très tôt, donc j'étais vraiment la grande gille. Bon, il y avait tout ça. Bon, lycée de centre-ville aussi, un peu puant à l'époque, ça a peut-être changé. Hein. Mais vraiment pas dans mon élément. Et en discutant plus tard avec notamment une amie qui était un peu plus âgée que moi, une amie de la famille, elle avait 5-6 ans de plus que moi, et elle m'a dit, tu sais, je sens qu'en fait, c'est juste que t'es pas faite pour cet âge-là. Toi, tu as t'es déjà plus enfant, en fait, t'as un truc qui fait que t'es pas bien dans cet âge-là. Et je te promets, et c'est ça vraiment qui m'a fait tenir, quoi. Coucou Franchon. Elle m'a dit, mais je te promets qu'en arrivant au lycée, ça va commencer à aller mieux. Et je me suis accrochée à cette idée-là, parce que je rentrais du collège tous les jours en pleurant quand même. Et effectivement, elle avait raison. Au lycée, ça a commencé à aller mieux, ouais.
Tu vois, t'es quand même d'une bonne nature, enfin d'une nature assez optimiste et positive, parce que ta première réaction, ça a été de dire « Ah oui, j'ai adoré l'école », et pourtant, il y a eu des souffrances pendant une bonne partie de la scolarité. Donc quand même, t'es plutôt du genre à garder le meilleur. Quoi.
Ah oui, je suis un peu madame verre à moitié plein,
okay.
Globalement.
Très bien. Be my guest.
Oh là là.
T'as
là
vu
là. I am your guest.
Tu m'inspires, Anaïs.
Oh, alors là, je vais prendre un truc complètement au fond, là. Allez, je vais prendre du bleu turquoise. Paris, France, ailleurs.
Ah. Ah, alors il y a un sujet, parce que tu as tu ne vis plus à Paris, mais tu as très très longtemps vécu à Paris.
Voilà, je ne vis plus à Paris à temps plein, même s'il y a des périodes, on dirait que je suis à temps plein quand je reviens beaucoup pour le boulot. J'aime bien dire que je vis entre Paris et Bordeaux.
Ouais.
Et parce que Paris, ça restera quand même la ville où j'ai eu ma deuxième naissance, je dirais. Ça a été très dur au début, je ne voulais pas venir vivre ici, à Paris. J'avais vraiment... j'ai grandi à Poitiers, il faut savoir. Poitiers, qui est une ville qui n'existe pas sur la carte de la météo. Et ça, pour moi, c'était un énorme trauma, il faut que je le dise aujourd'hui. Et en fait, j'avais l'impression du coup d'être...
Ça craint, il y a même Aurillac pourtant.
Non, mais tu vois, vraiment la honte, quoi. Les grosses boulasses de ne pas être sur la carte de la météo. Donc en fait, je ne savais jamais quel temps il faisait chez moi et la température qu'il y avait chez moi. Je faisais une moyenne entre Tours et La Rochelle, et tu vois, c'était naze. Et je me suis dit, un jour, j'habiterai dans une ville qui est sur la carte de la météo. Mais je te jure que c'est vrai. J'étais hyper vexée de ça. Maintenant, j'ai une affection pour Poitiers. Bon, c'est une ville qui est chouette par plein d'aspects. Mais quand je suis arrivée à Paris, même si j'avais encore ce truc de Poitevine qui dit la grande ville, Paris, c'est comme si c'est comme ça, ça pue, c'est pollué, ça va trop vite. C'est vrai que j'ai vraiment pris ça un peu en pleine face quand je suis arrivée à Paris. Mais en fait, c'est tellement incroyable ce qu'on peut, les vies qu'on peut avoir à Paris. C'est-à-dire que tu sens que tu peux avoir la vie que tu veux si tu as la curiosité de voir qu'on peut avoir plein de vies différentes. Il y a cet anonymat. Moi, en fait, dans mes années de collège, le fait de se dire, il y a 3 rues piétonnes et tu es sûr que tu vas croiser les gens que tu ne veux pas croiser, ça, c'était traumatisant.
Je comprends très bien ça, ouais.
Horrible. Mmh. Et donc, tu arrives à Paris et là, tu as un anonymat quasi garanti. Et ça, c'est très libérateur pour se reconstruire, enfin, se construire une deuxième fois.
Je comprends, mais à 100% ce que tu dis. Ouais.
Tu te refais une virginité, quoi. C'est-à-dire que moi, à Poitiers, j'avais parfois l'impression d'avoir toutes mes casseroles et que tout le monde connaissait, tu vois, tout mon historique et savait que j'avais été la fille au collège avec la frange comme ça, avec les boutons qui étaient trop grandes, avec des fringues trop petites. Ouais, bon, bref. Là, au moins, on te prend comme tu es à l'instant T. Et ça, c'était... vraiment hyper. Déjà, ça m'avait fait ça en Irlande. C'est pour ça que je garde aussi le truc avec l'Irlande.
Oui, parce que du coup, alors voilà, tu as un attachement puissant avec l'Irlande. Est-ce qu'il y a d'autres pays ? Parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu maîtrises complètement l'italien. Ça veut dire qu'il y a un attachement aussi à l'Italie ou...
J'adore l'Italie et j'ai eu envie vraiment, j'ai choisi de faire de l'italien en deuxième langue au collège plutôt que l'espagnol que prenait tout le monde. Oui, je me sentais attirée vers l'Italie et j'ai aimé faire de l'italien. Après, j'ai pas du tout la même maîtrise de l'italien, c'est pas au même niveau que l'anglais, parce que l'anglais, donc j'ai vécu un an dans un pays de langue anglaise, ce qui n'est pas le cas pour par exemple l'Italie. Je le pratique énormément au quotidien, ce qui est moins le cas de l'italien, donc voilà, c'est pas tout à fait au même niveau, mais oui, alors évidemment voyager en Italie c'est merveilleux, mais je pense que le pays, il y a deux pays auxquels je me suis attachée avec le temps. Après l'Irlande, il y a eu les États-Unis vers lesquels je suis revenue dans un deuxième temps parce que tant que j'étais dans mon trip Irlande, j'avais un peu le truc de dire « Ah, les États-Unis, c'est vraiment c'est vulgaire, c'est des gens pas fins, leur accent quand même. » Et il y a eu, un basculement petit à petit. J'y suis retournée en voyage et j'ai appris à aimer ce pays pour justement dans tous ses excès et être fascinée aussi par ses excès. Tout ce qui permettait aussi d'offrir. J'ai découvert Los Angeles, qui était un peu la Mecque pour moi, hein, parce que le cinéma, tout ça. Quand je me suis autorisée à aller à Los Angeles en me disant, mais en fait, je peux y aller, c'est-à-dire que ce n'est pas inaccessible. Il suffit que je prenne un billet d'avion et vraiment, mais je te jure que le jour où je me suis dit, en fait, je peux aller à Los Angeles.
Il y avait un truc un peu trop sacré, en fait.
Exactement. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas du tout dans le sacré ni rien. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien faire tomber les barrières. Mais là, il y avait un truc, je pense, dans ma tête, un verrou que j'ai fait sauter le jour où j'ai compris que je pouvais prendre un billet d'avion et aller à Los Angeles. Donc voilà, amour un peu réactivé, donc de la culture américaine aussi, dans tout ce qu'elle a aussi parfois de moins reluisant. Et puis, par la danse, je danse la salsa cubaine depuis pas mal d'années. Et donc, je suis allée à Cuba. Je suis allée à Cuba pour faire des stages de danse. Et j'ai adoré ce pays. J'ai adoré ce pays dans toute sa complexité aussi. Avec vraiment quelque chose de... C'est pas simple, c'est un pays où on peut faire des raccourcis très rapides, on peut avoir soit un truc, un rejet de « ah, c'est une dictature affreuse », on peut avoir au contraire, quand on y va et qu'on aime les gens et qu'on aime ce qu'on voit, une sorte d'angélisme absolu qui n'est pas la vérité du tout non plus. Et quand on comprend justement un peu ce qui sous-tend le pays, les dynamiques, la passivité d'un peuple qui par ailleurs est vu comme révolutionnaire, mais qui, en fait, a été vraiment assisté au point de totalement subir et de voir à la fois une grande pauvreté, mais un côté des merdes sublime, vraiment. Et pas le truc qu'on pourrait dire quand on voyage, le truc un peu condescendant, oh là là, ces gens, ils sont pauvres, mais ils ont tellement à donner, le truc horrible.
Merci Anaïs de le dire, merci beaucoup.
Voilà, et c'est au contraire, c'est vraiment ce truc, une flamboyance et un truc de, une fierté, de dire, non, moi, je veux pas attirer des regards compatissants, et je me démerde, en fait, on récupère, on fait, surtout, on avance, quoi. On avance. Alors là, pour le coup, c'est un peu un cliché, mais la joie par la danse, ça, c'est réel. C'est vraiment réel. On danse pour, comme ça, sans raison, dans la rue. On met une musique et ça y est, c'est parti. Et voilà, la musique, elle infuse et elle insuffle quelque chose dans tout le pays, tout le temps. Tout le temps. C'est un pays incroyable. Alors, c'est très compliqué et ils ont vraiment pas grand-chose, mais ça vaut le coup. Il y a une culture, et puis une flamboyance. Et le côté, le charme décrépit de la Havane, c'est un truc fou, quoi.
D'accord. T'es allée combien de fois, déjà ?
J'y suis allée 3 fois. Une fois en stage de danse. Une fois, je me suis incrustée au voyage de 40 ans de noces de mes parents, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient à Cuba. Je dis, bah, ok, bah, je viens, en fait.
Ah, le relou.
Tu vois, la meuf qui, tu sais, à 20 ans, elle ne voulait plus partir en vacances avec ses parents. Et en fait, à 35, elle fait, non, mais en fait, vous m'emmenez, là, obligée. Et après, bah, j'ai emmené mon chéri quelques années plus tard. Your job's a joke, you broke.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Ah, tu veux... continue.
Ouais.
Bah alors on va prendre un peu de verre. Le verre Irlande. Ah mais ça, elle a déjà été tirée celle-là, je crois. J'ai entendu dans une émission, sport et corps. Je me suis mise au sport assez tard, j'étais pas sportive.
Alors attends, parce que là j'ai vu des stories passer sur Instagram. Merde. Il se passe un truc dans ta vie, Anaïs.
C'est ça.
Il faut que tu m'en parles.
J'ai un nouvel homme dans ma vie. Et oui, j'arrive à cet âge où on prend un coach personnel quand on a pris un peu de poids et qu'on a envie de se motiver. Voilà. Et qu'on a une salle de sport en bas de chez soi et qu'on se dit, meuf, t'as pas d'excuses.
Ok, mais, voilà. Mais tu danses depuis longtemps, tu viens de dire.
Oui, je danse depuis longtemps, je nage depuis un petit peu moins longtemps, mais ça m'a beaucoup réglé des problèmes de dos que j'avais, des problèmes de posture, parce que quand j'ai commencé à être interprète, donc en 2016, par hasard, j'avais jamais fait ça, et on m'a proposé de le faire, et après voilà, ça a fait boule de neige, je me suis retrouvée interprète, notamment dans un festival, un grand festival, et... La nana arrive, mais totalement inconsciente de tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, je me dis, bah, t'es interprète, t'es invisible, tu n'existes pas, puisque tu es là pour parler à la place de quelqu'un, enfin, pour parler pour quelqu'un d'autre. Tu dis je, mais c'est pas toi qui parles. Moi, je me croyais vraiment totalement planquée, jusqu'à ce que je visionne les images de moi sur scène. Et là, c'est le drame.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors déjà, première semaine, le gars de l'équipe du festival qui filmait, il filmait avec une tablette et il me filmait en contre-plongée, donc déjà pas le truc le plus flatteur. Mais donc déjà, tu vois, t'as l'impression que t'as un bas du corps énorme, quoi. C'est un peu... Et il me dit, en plus, il me dit, t'as un tic de genou.
Un tic de genou ?
T'as un tic de genou. C'est-à-dire qu'en fait, je contractais mon quadriceps par nervosité.
Et ça se voit, ça ? On fait gaffe à ça ?
Alors, lui, sur la tablette, enfin lui, comme il était vraiment au pied de la scène, il me voyait, quoi. Mais ça m'a traumatisée, déjà, premier truc. Mais c'est bien, il faut le savoir. Il faut se regarder, il faut s'écouter, même si c'est toujours vraiment douloureux, quoi. Moi, c'est à chaque fois, c'est « Oh là là, j'ai encore dit ça de travers, j'ai parlé trop vite. » Voilà, et je me tiens mal. Et vraiment, le truc de oh, « Je me tiens trop mal. » Et en fait, je suis ultra visible. On ne voit qu'en gros, on ne voit que moi, parce que je suis la seule personne qui est constante sur scène, qu'on voit tout le temps. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ce festival, c'était à Cannes, et quand je me baladais dans Cannes, je commence à voir des gens qui me regardent un peu avec insistance, enfin, qui cherchent mon regard et qui, pour me dire, enfin pour me saluer ou pour me donner un signe de reconnaissance. Et je commence à me dire, merde, attends, j'ai perdu la mémoire, cette personne, je la connais, je l'ai croisée, ou attends, c'est qui cette personne, il va me confondre avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que les gens, ils m'avaient vu sur scène, mais ça ne m'avait pas traversé l'esprit que j'allais être sur scène et que j'allais être hyper visible. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, c'était une sorte de choc. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, cocotte, faut que tu travailles ta posture. Parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Ça fait, pas négliger, mais ça sera plus joli si tu te tiens bien. J'ai fait plus attention à mes tenues. Après, tu tombes vite dans un truc narcissique, hein. Et moi, j'étais pas du tout préparée à ça. C'était une composante du métier que j'avais absolument pas anticipé. Ça paraît bête, parce que c'est évident. Mais moi, je l'ai compris à retardement. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais une telle inconscience au départ, une telle insouciance de tout ça, que finalement, j'avais moins le trac les premiers temps que maintenant. Maintenant, j'ai tellement conscience de tout ça. Après, il y a aussi le fait que tu te mets la pression parce que tu veux rester au niveau. C'est comme un restaurateur ou voilà, un chef cuisinier. Au début, il se lance. Personne ne le connaît, donc il fait ses plats. Et puis après, quand les gens le connaissent un peu, il sait qu'il doit assurer tous les soirs et faire un bon plat tous les soirs. Et s'il faiblit une fois, donc il y a peut-être cette sensation-là qui apparaît. En tout cas, maintenant, il y a le truc de se maintenir et donc beaucoup de pression que je peux me mettre avant d'entrer sur scène. Et aussi, ça passe aussi par le corps, par la façon de se tenir, la façon de se sentir. Et donc, essayer d'avoir des fringues confortables, mais en même temps élégantes et de faire du sport parce que oui, quand même, ça aide beaucoup pour tout ça et être capable de tenir debout, immobile. Ce qui est quand même assez fatigant pour le dos, voilà. Donc maintenant, ça, grâce à la piscine et au sport, je supporte beaucoup mieux ça. Et quand tu enchaînes les journées dans un festival, il faut tenir la distance. C'est vraiment un truc de tête de fond, quoi. Et il faut une hygiène de vie aussi pendant un festival. Moi, je suis la mamie qui ne boit pas pendant le festival, qui va se coucher tôt.
On l'a trouvé, c'est elle. La seule qui ne boit pas pendant le festival de Cannes.
Qui quitte les soirées, qui arrive dans les soirées à 22h après son travail et qui repart à 22h30 pour aller se coucher.
D'accord. Bon, c'est un vrai sujet, donc le corps, la question du corps et le sport, c'est un vrai sujet.
Ouais, okay. Ouais, carrément.
Très bien. Est-ce que tu veux en tirer une dernière ?
Ouais, celle qui me tend les mains, là. Allez, un petit fuchsia. Addiction.
Ah ! Est-ce que t'en as ? Ou est-ce que t'en as eu ? Ou est-ce que tu pourrais en avoir ? Tu es d'une nature addictive ?
Oui, je pense que je pourrais. Je suis à la fois quelqu'un de posé par certains aspects, mais j'ai toujours cru dans ma vie, j'ai toujours cru comme j'étais bonne à l'école et ça, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de cérébral, oui. De rationnel. Et je me suis rendu compte petit à petit dans ma vie que pas du tout, que j'étais en fait une émotive, une passionnée, quelqu'un qui fonctionnait à l'enthousiasme. Et potentiellement, ça, c'est, je pense, des caractères qui vont être plus, qui vont plus aller vers, pas forcément des pratiques extrêmes, mais en tout cas, qui vont aller rechercher une sensation qui a été agréable. Alors, l'adrénaline, c'est une drogue extrêmement puissante. Et ça, je l'ai découvert en devenant interprète. Et c'est dur de redescendre. Quand on est sur son high, là, sur son pic d'adrénaline, quand on descend de scène, je pense que c'est comparable à un comédien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se coucher tout de suite, on est complètement pile électrique, et à la fin d'un festival, j'ai besoin de plusieurs jours pour redescendre. Et c'est vrai que le corps, il en redemande, tu sens que ton corps, il en redemande. Et il y a un petit refus, tu vois, à la fin, bon, il y a toujours un truc dans l'événementiel, un truc de fin de colo, là, tu vois, le blues de fin de truc. Mais tu sens qu'en fait, ouais, ton corps, il t'en réclamerait, mais parce que c'est tellement grisant. C'est tellement... Par rapport à mon métier de sous-titreuse, c'est le côté posé... j'ai le temps de réfléchir, de peser mes mots, de penser à ma traduction pendant plusieurs jours, de laisser poser, d'y revenir. L'interprétariat, c'est l'immédiat. C'est, il faut être efficace tout de suite. C'est vraiment le moment de vérité. Et donc, tu es entièrement mobilisé, ton corps est totalement mobilisé. T'as plus mal, t'as plus faim, tu ressens plus rien. T'es complètement... Voilà. Et donc, ça, c'est, je pense, c'est comme un comédien. Et donc, oui, à la fin aussi, t'en reçois une gratification qui est énorme. Parce que les gens t'ont vu travailler, ils ont vu en direct ton travail. Il y a aussi un peu le côté performance, c'est-à-dire que ça peut impressionner alors que c'est juste une gymnastique. Mais souvent, les gens regardent ça voilà, comme une prouesse.
Oui, moi je trouve ça très impressionnant.
Et donc tu en reçois beaucoup de gratifications, beaucoup immédiates. Donc de gens qui viennent te voir à la fin pour te dire, te faire des compliments. Et ça, évidemment, on y prend goût, parce que quand on est sous-titreur, c'est quand même rare d'avoir ça. D'ailleurs, plein de traducteurs préfèrent être planqués et on ne fait pas ça pour la gloriole. Donc en étant interprète, encore une fois, je n'avais pas du tout anticipé ce truc d'immédiateté et vraiment de gratification immédiate et très forte parfois. Donc ça, oui, c'est addictif aussi. Mais il faut savoir redescendre. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir ces deux métiers. Parce que le sous-titrage, c'est que ça reste quand même mon métier principal, ma passion première. Parce que faire rentrer le sens dans un minimum de place, vraiment aller à l'essence du sens. Parce qu'on traduit du sens, on ne traduit pas des mots. Et donc, ça, c'est un exercice intellectuel extraordinaire, hyper ludique, tout le temps renouvelé. Voilà. Là, j'ai découvert un autre aspect de la personnalité que j'ai du coup développé plus depuis 7 ans. Et sinon, le chocolat.
T'es accro au chocolat? Ah ouais?
Alors, à un chocolat.
Vas-y.
Mais il ne faut pas que je dise... Enfin, si je le dis, il va être dévalisé dans tous les magasins. Déjà, j'ai du mal à le trouver. C'est le 85% du Togo de chez Carré Suisse. Attention, c'est très précis.
Ah oui, là, c'est précis.
On ne rigole pas avec ça.
D'accord. Et ça, tu peux t'en enfiler...
Bah trop, ouais.
Oh, d'accord.
D'où le coach.
D'où
quoi.
Le coach, ok, ça marche.
Il y a un lien.
Anaïs, notre entretien prend fin.
Déjà.
Mais c'est passé très vite, c'était passionnant. Oh là là, tu m'as ébloui. Est-ce que tu voudrais bien me dire qui tu souhaites désigner pour participer à cette émission? Quel serait ton meilleur espoir?
Alors, mon meilleur espoir, c'est une super nana que j'ai rencontrée dans le cadre du boulot au départ. C'était il y a 12 ans et on montait avec mon association le premier prix du sous-titrage. On voulait mettre en avant nos métiers et on s'est dit il faut le faire de façon positive et créer un prix, un truc un peu prestige et voilà, pour donner envie. Son contact nous a été donné et elle était au taquet. Elle avait en plus fait des études littéraires, donc elle était vraiment très précise, alors que maintenant donc elle est productrice de films. Et donc elle s'appelle Caroline Nataf.
Parfait, ben je contacterai Caroline alors. Merci beaucoup Anaïs.
Avec grand plaisir, merci à toi. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge, I'm a diamond in the rough.
a shiny piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name.
I am the A-L-E-X-A-N-D. ER, we are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs his spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me, he says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away. My shot, I am not thrown away. My shot, hey yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not thrown away. My shot.
Wow, dis donc.
C'est un tout petit bout, hein. C'est le tout seul tout petit bout que j'arrive à maîtriser, mais c'est mon défi de 2023.
C'est vrai.
Ouais, d'arriver à rapper comme bon, pas tout à fait comme Lin Manuel.
Mais... France will lead to anarchy. Anarchy, how you say? How you say? Or anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my shit.
Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got job knuckleheads and local parentis. I'm joining the rebellion, cause I know it's my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gonna take shit.
And but we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do or die. Wait till I sally in on a stallion with the first black battalion. Have another shot.